Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour,
bonsoir,
bienvenue
à Cour d'honneur,
saison 5, épisode 14.
C'est l'heure de votre émission préférée parce qu'on sait que vous n'en avez jamais assez.
Ça y est, c'est le printemps, le ciel est bleu et j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux.
On profite justement du soleil puisque demain matin, direction le sud.
Yes, on part pour Banyuls avec nos kits, nos clics et nos claques.
Toute l'équipe est toujours avec vos postes, Lazy préférée.
Soit.
Et Ellie.
En attendant de prendre le train à 6h du mat.
Ce soir, on se pose cette question.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ?
On vous répond justement sur Radio Sorbonne Université.
Votre magazine toujours préféré d'infos et de culture.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est en direct un mercredi sur deux.
Et ou un samedi par mois, sur deux, pardon, sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va
parler d'improvisation.
Allez-y !
C'est ! Je commence à crompir sur... Oh, pardon. Non, mais excuse-moi.
On n'a pas dit qui commence.
Ouais, tu veux y aller ? Vas-y. Hein,
non, je t'en prie.
Vas-y, prends.
On va parler de party.
Lola !
Ça va, maman ? Alors, on commence par quoi ? Les pétards ou les capotes ?
Tu te fous de moi, Lola ?
Mais non, je me fous pas de toi, maman, je te promets. J'ai...
Tu te fous de ma gueule, là, Lola ?
Non, je me fous pas de ta gueule.
Si, tu te fous de ma gueule ! Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi, t'en fumes tous les soirs dans ta chambre, quand même !
Et de travail acharné.
T'es où ? Je suis au boulot, là.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir. Et tout d'abord avec toi, Swan.
Eh bien oui, rebonsoir. Moi, je m'occupe de l'interview avec Gilles Sioufi. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bien, toi aussi, Ellie, d'ailleurs.
Bah, merci. Et puis moi, ce soir, c'est un petit Sorbonne in Love avec deux nouveaux tourtereaux qui nous attendent.
On a vraiment hâte.
Et on dit aussi bonsoir au fameux Elias.
Et bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, ce soir, je vous ai préparé un petit édito sur l'improvisation, justement.
On a très hâte et j'espère que tu ne vas pas l'improviser. Bonsoir aussi à Clara.
Et bonsoir. Alors, oh là, attends, je te le tiens. Et bonsoir. Vous savez ce que ça veut dire pendre sa crémaillère ? Hein ?
Non ? On se démarre.
Eh ben, ça tombe bien, on va voir ça dans le reportage.
C'est parfait, j'ai vraiment hâte.
Génial, surtout que j'y étais, c'était vraiment grandiose. Sinon, on dit bonsoir à Mathilde aussi.
Bonsoir, qui dit Sorbonne dit aussi censure, fut un temps, donc on va parler de la censure à la Sorbonne.
Ah, ça, heureusement, parce que nous, on la frôle. Bonsoir aussi à Romain.
Bonsoir, bonsoir. Alors moi, je vous ai prévu une petite chronique Sorbonne en personne sur un rappeur très, très conscient.
Mm-hmm. Toujours rappeler d'où les gens viennent, c'est bien.
Et enfin, bonsoir Lavinia.
Bonsoir les filles. Alors moi, je vous ai préparé une carte postale sur les deux salles de philosophie à l'Abysse.
Yes, j'ai trop hâte d'entendre ça. Sans oublier le grand, le fameux et le célèbre, notre maman, Thomas Schnell.
Mais oui, bonsoir à tous. Moi, vous savez, ce que je préfère dans la vie, c'est de traîner en terrasse. Et ben, je vais vous raconter lesquels sont les mieux situés pour profiter du soleil et des jolis Parisiens.
Génial, très important, on a bien besoin. Mm-hmm. Et bisous à Jade aussi, elle est pas morte, mais on lui fait quand même un gros bisou.
Ouais, presque.
Allez, que vous soyez en pleine session de révision.
En train de vous dorer la pilule avec le beau soleil dehors.
Ou encore en train de texter votre ex.
On vous accueille parmi nous pour la prochaine heure. Bienvenue
dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, je suis vraiment fichée.
Carte blanche.
Dans un monde où tout doit être planifié au millimètre et où rien ne se passe jamais comme prévu, une question devient urgente. Et si la vraie force, c'était l'impro ? Pourquoi faut-il improviser ? La réponse tout de suite avec Elias.
Alors j'aurais bien aimé improviser cet édito, mais Big Bro, ou plutôt Big Mom, me regarde. Aucun lien avec George Orwell, je pars bien de Thomas Schnell qui improvise lui-même ses chroniques mais n'a pas assez confiance en ses brillants étudiants pour en faire autant. Peut-être pense-t-il que pour que tout se passe bien, il faut que tout soit organisé et anticipé ? Eh bien je n'ai pas peur de le dire, Thomas a tort. Parce que la réalité est différente. La vie ne reste jamais parfaitement sur les rails. Au contraire, je l'espère, de notre train pour Banyuls sur mer demain matin à 6h du matin, ça pique quand même. On aime bien tout prévoir et c'est normal quelque part, ça rassure d'avancer en sécurité. Mais un imprévu peut donner plein de belles choses. Et c'est là qu'intervient quelque chose de précieux, la capacité d'improvisation. Improviser, c'est pas abandonner toute organisation, c'est pas non plus agir au hasard, c'est savoir s'adapter, être capable de réagir dans l'instant, c'est garder le cap même quand le chemin change. J'aurais pu me présenter au municipal, ça aurait peut-être bien marché pour moi. Dans beaucoup de situations, improviser devient une force. parce que tout ne peut pas être anticipé, parce que certaines décisions doivent se prendre du tac au tac, et surtout parce que les meilleures idées ne naissent souvent pas d'un plan, mais d'un moment. Improviser, c'est accepter de ne pas tout maîtriser, tout en sachant qu'on saura gérer. C'est avancer sans garantie parfaite, mais avec sa capacité d'adaptation. Finalement, c'est peut-être ça la clé, trouver l'équilibre. Avoir des repères, oui, des objectifs, bien sûr, mais garder assez de souplesse pour s'ajuster lorsque les plans changent. Improviser, c'est pas un plan panique, c'est une compétence essentielle, une manière d'avancer sans rester bloqué, une façon de transformer l'imprévu en opportunité. Alors improvisez, faites-vous confiance dans la vie, car comme le disait John Lennon, la vie, c'est ce qui t'arrive quand tu t'occupes à prévoir autre chose.
Merci Elias. Wow,
merci Elias.
On sait ce qu'on va faire maintenant quand vous ne nous auriez pas vos lancements à l'heure. On improvisera.
On va improviser.
Sur
ce,
il est 18h05 sur Radio Campus Paris et 20h05 sur Radio Sorbonne Université.
Et dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant,
place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Il y a 6 ans, jour pour jour, la France achevait sa première semaine de confinement. Le Covid allait atteindre son pic de mortalité dans quelques jours et les Français étaient allés voter à peine 10 jours pour la dernière élection municipale. Vertige. 6 ans après, que reste-t-il de cette période? Avons-nous conservé des habitudes sanitaires, des gestes barrières? Quelles sont les pratiques que les étudiants de Sorbonne Université ont abandonnées? Nous sommes allés vous poser la question.
Faire la bise, par exemple, on la fait plus du tout.
Je n'aime pas. En plus, je n'aime plus la faire.
Dans le métro ou dans l'RER le matin, quand on est vraiment nombreux, c'est vrai que je vois plus de personnes un peu qui veulent vraiment pas s'approcher des autres, qui en ont vraiment peur plus qu'avant, qui se mettent plus en recul ou qui vont vraiment essayer genre de mettre la tête très haute ou ou qui vont mal regarder les gens qui vont tousser, qui vont éternuer.
Parce que j'ai adopté déjà le réflexe de me tester et de demander à ma famille, à mes amis de se tester dès qu'on a un petit mal de gorge.
Quand je vais dans des amphis ou bien à l'hôpital ou bien quand je prends le bus, en général je mets les masques.
Ouais. Je pense surtout mettre du gel hydroalcoolique quand je me dis que j'ai la main sale ou quand je sors du métro, plus que vraiment à chaque fois que je fais quelque chose. Et sinon, après juste me laver les mains, je fais hyper attention. Et dans les queues, je remarque que les gens, ils gardent... Enfin, souvent, il y a les marques qui restent de « il faut garder un mètre ». Et les gens, des fois, continuent à le faire.
Quelque chose que j'ai gardé, c'est d'éternuir dans le coude. Je vois que les gens font ça aussi et je trouve que c'est bien.
C'est une très bonne question. Bah forcément, je pense que le principal, ce serait avoir toujours un gel hydroalcoolique sur moi, oui, voilà. Et puis globalement, l'hygiène des mains. Mais pour ce qui est de la distanciation sociale, plus trop. En fait, il y a toujours ce réflexe qu'on a toujours gardé de si quelqu'un est malade, on s'éloigne de lui. Je pense pas que ce soit spécifique au Covid. Donc, je dirais plutôt non.
Alors, parlons-en. Est-ce que vous aussi, vous trouvez qu'il y a eu un monde d'après le Covid? Est-ce que votre vie a changé? Est-ce que vos habitudes ont changé? Évidemment, en quoi?
C'est clair que moi, personnellement, j'ai vécu ça comme un traumatisme. Avant, c'était pas très important pour moi. Avant c'était pas très important pour moi, j'étais clairement juste j'allais dans le métro, je mettais ma main partout, je me lavais pas les mains, pour moi c'était quelque chose de pas important en fait. Et quand le Covid est arrivé, ça a vraiment créé quelque chose, une sorte de peur constante, même souvent quand je suis dans le métro, j'arrive pas à mettre ma main parce qu'en fait je me dis j'ai peut-être oublié de me laver les mains. Donc je vais mettre mon pull et je vais me frotter contre la barre avec mon pull pour être sûr de ne pas choper toutes les bactéries.
Ah ouais, donc est-ce que ça tu penses c'est vraiment par justement toute cette vague de faire attention et devoir être propre absolument du Covid?
Oui, oui.
Après ça
ah ouais. Oui, oui, totalement.
Alors moi, à l'inverse de toi, j'ai pas du tout eu ce avant-après. Je parlerai pas d'un monde après-Covid. Je pense qu'il y a des traces qui restent, comme on l'a entendu là, de certains réflexes. Je pense que, enfin moi notamment, ce qui m'a le plus marqué dans mon quotidien et ce que j'ai vu autour de moi, c'est la bise. Là, par contre, je suis d'accord que je trouve que la bise est vachement perdue. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que du coup on est plus dans un truc de distance, mais en même temps il y a des gens qui n'étaient pas trop à l'aise avec cette pratique et du coup qui se sont plus retrouvés dans le fait de en fait juste son salut ou après le coup de je vois plus trop les gens faire ça, mais oui, voilà, je parlerai pas d'un monde d'après.
Non, je pense qu'il y a pas de monde d'après, il y a pas eu un monde après Covid, je trouve qu'il y a eu une parenthèse Covid. Parce que pendant le Covid, on a tellement eu toutes les habitudes bouleversées de trucs qu'on faisait pas ou peu, qui sont devenues quotidiennes. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est redevenu comme avant en quelque sorte. Ou dans le métro ou même dans le bus, il y avait quelqu'un qui disait qu'il mettait des masques. Je ne vois personne avec des masques. Nulle part.
de temps en temps.
Ouais, moi j'en ai vu quelques-uns.
Ou très très rarement, mais.
Moi je vois souvent des gens dans le métro, au moins une fois par jour, qui. Forcément un qui sera avec son masque dans le métro.
Parce qu'il y a le réflexe maintenant.
Je pense que les gens malades, ou après c'est souvent les personnes âgées ou les personnes à risque qui en portent, et ce que je peux comprendre. Mais donc les masques, je trouve que ça s'est gardé. Et après, mettre la main dans le métro, bon, moi j'avoue que je me balade toujours avec mon gel hydroalcoolique, et ça, je sais pas si je l'avais avant le Covid ou pas, on était quand même très jeunes. Hein. C'était il y a longtemps.
C'est là-dessus dont je voulais parler. C'est que surtout, avant le Covid, on était quand même jeunes, 15, 17 en moyenne, voire même 14. Ouais. On n'a pas vraiment vécu la vie qu'on a maintenant. J'ai un ami, juste pour la petite anecdote, qui est parti en Guadeloupe et qui s'est retrouvé bloqué là-bas. Il s'est dit... Oh, trop dommage. Et du coup, il a dû rester vivre en Guadeloupe pendant tout le temps du Covid. La vie n'était pas du tout la même que nous. Ils n'étaient pas enfermés chez eux. Ils n'en avaient rien à faire. C'était vraiment rien à changer pour eux. Il y a eu quelques formes, mais voilà. Mais par contre, lui, en revenant ensuite en Vendée, en revenant en France, il a remarqué quand même des vraies différences où, par rapport à faire la fête, aller boire des verres, être plus ou moins proche avec les gens, aller manger chez les uns ou chez les autres. Il y a quand même les relations sociales, ce sont éparpillés et les gens étaient beaucoup moins proches qu'avant. Et lui, en sachant qu'il a 10 ans de plus que nous. Donc vécu l'avant, l'après.
Moi, s'il n'y a pas eu un monde d'après en soi, c'est un peu gros de dire ça. Mais après, c'est vrai que j'ai gardé des habitudes du Covid. Genre, par exemple, comme toi, Mathieu, je traîne toujours avec un gel hydroalcoolique maintenant dans mon sac. Je fais vachement attention à l'hygiène des mains, etc. Plus qu'avant, je pense. Mais il y a aussi le fait que j'ai grandi aussi. Peut-être que je faisais moins attention quand on est ado, etc.
Peut-être ça aussi. Hein.
On a plus tendance à être je m'en foutiste sur ce genre de choses. Enfin, ça dépend des gens. Et après, évidemment, il y a aussi geste barrière et geste juste logique. Quand tu tousses, tu mets la main devant la bouche. Enfin, ça, c'était des trucs qu'on m'a toujours appris. Donc, voilà.
Et je trouve que cette question du avant-après, elle est pertinente. Enfin, sur l'exemple de la Guadeloupe, ça montre que dans certains départements, en fait, il y avait un contrôle étatique, public, qui était beaucoup moins scrupuleux. Alors que j'avais un pote qui, pareil, petite anecdote, me raconte que sur la plage, vraiment, l'air circule, il n'y avait personne. Et on lui a demandé de mettre son masque alors qu'il était tout seul sur.
Justement, c'est parce que l'air circule qu'il faut mettre un masque.
Mais non, mais quand tu es dans un espace confiné, là, c'est problématique. Mais genre, quand tu es en plein air et qu'il n'y a personne d'autre que toi sur la plage, c'est un peu gros qu'on vienne t'embêter avec ça.
L'air marin est bien connu quand même pour détruire plus rapidement les bactéries, il me semble. On conseille toujours aux gens un peu malades et un peu. Chétif. d'aller vivre en bord de mer pour se soigner. Enfin bref, tout ça pour dire oui. Il y a eu quand même des normes. Moi je me souviens, j'allais juste courir. On m'a dit, mets un masque. Je vais pas courir avec un masque, je m'étouffe ou quoi. Donc voilà, après, je pense vraiment que si on n'a pas vécu l'avant-après, c'est parce qu'on n'a juste pas vécu l'avant. C'est tout. Donc on n'a pas
quand même,
on
n'était pas
non
plus.
Un peu l'avant, quand même.
Si, mais je veux dire, on faisait des soirées dans des garages, on buvait de l'IC, tu vois. On n'allait pas sortir comme on le faisait aujourd'hui. Oui. Donc on n'a pas eu ce décalage-là.
Ouais, non. Bah moi, j'étais en seconde quand même.
Oui,
première, je sais plus.
On était quand même jeune. Mais
Oui.
Et Lavinia, tu avais 15 ans. Quelque chose
oui, enfin, là, l'autre jour, j'étais allée voir une pièce antique où tous les acteurs portaient des masques qui cachaient l'expression totale. Et en fait, la seule manière dont je pouvais voir leurs émotions, les ressentir, c'était par leur gestuelle et par leur voix. Et je sens que, enfin, j'ai l'impression que maintenant, quand je me rappelle la période qui a suivi vraiment tout de suite après le Covid, j'étais un peu choquée de toutes les émotions et de toutes les mimiques. Et la gestuelle que j'avais un peu perdue en m'arrêtant en fait au haut du visage. Et aussi, je sais pas, ça m'a fait très très bizarre.
Ouais, j'étais choquée de voir la vraie tête des profs surtout.
Oui.
C'est surtout ça, parce que il a fallu, il y a un moment où ils ont enlevé les masques et waouh.
Oui, c'est ça. Un
petit passage d'adaptation quand même. Parce que
ouais. Après, eux, ils ont toujours été comme ça, mais quand t'as l'image dans ta tête d'une moitié de visage et que ça devient un 100% de visage.
Moi, mon prof de philo s'est fait pousser une barbe majestueuse pendant toute la période Covid. Alors quand il a enlevé enfin son masque, c'était waouh.
Mais tu l'avais déjà vu avant?
Oui, c'est ça en fait qui a fait le choc.
Ah, parce qu'il y a des profs que j'ai eu pendant le Covid que j'avais jamais vu sans masque quel choc. Oui. Mais on s'éloigne un peu des gestes barrières quand même.
Effectivement. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou est-ce qu'on peut continuer? Allez, on
clôture.
Donc je ne pouvais pas consciemment nous laisser débuter cette émission sans vous faire écouter le son du moment, le plus beau featuring de tous les temps avec Rayé et Hans Zimmer, les deux go de l'industrie musicale mondiale, et je pèse mes mots. On écoute tout de suite Click Clack Symphony.
Mmh. send a call out, send a call out. Calling all my baddest women, it's about to go down. Click, 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 back, Symphony, I need that. Click, 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 back, Symphony, I love the sound of it. You let the girls out. I did, darling. She's empowered by the sound of us marching. Her legs are hurting, but her back is still arching. And the sound reminds me that it's going to you. Jim, Jimmy Choo, it's time to open up the closet. It's a sad sight to see men in a blonde gather cobwebs. Why I'm like an alien in every dress I try side. Every time my music loud, you'll pretend it's fine. Everything has hurt me, left, they give up on me. Am I just a product of everything that was done to me? Run to me, come to me, someone bring the sun to me. I can see the glimmer of the girl who wants to believe. She just needs, she needs a pep talk. She needs a hug, she needs a dance floor. She's got one little life, she needs to get out the house more and try and start living it. Heavy as the burdens that are weighing on me. I will lay them down on those pink and blue lights. For my girls are sitting in some lights. Make a dress, make a time and then I just want you. Send a call out, send a call out. Calling all my baddest women, it's about to go down. Click, 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 clack, Symphony, I need that. Click, 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 clack, Symphony, I love the sound of it. I did, darling. She's empowered by the sound of us marching. Her legs are hurting, but her back is still arching. And the sound reminds me that it's going to be alright. Though this season of her life had been cold, lonely, and tough, though she slipped back into a darkness she had hoped by now to have overcome, she had learned a beautiful lesson as she kissed her girls goodbye and thanked them for getting her out the house. That maybe everything was going to be alright. And even if only for a moment, everything is going to be alright. It's going to be alright. Going to be alright. Send a call out, send a call out. Calling on my baddest woman, it's about to go down. Click, 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 clack, Symphony, I need that. Click, click.
Il est 18h17 sur Radio Campus Paris, 20h17 sur Radio Sorbonne Université. Vous venez d'écouter Click Clack Symphony, le nouveau single de Rai, annonçateur d'un très bon album. Très bon. Assez parlé de musique, parlons de notre belle langue française avec l'interview de Gilles Sioffi de Barsoine.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
J'ai donc le plaisir de vous recevoir ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Sophie, rebonsoir. Vous êtes, je dirais, l'un de nos clients réguliers, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez apparemment à Radio Sorbonne. Je rappelle que vous êtes professeur de langue française à Sorbonne Université et surtout un spécialiste reconnu de l'histoire de la langue française des 17 et 18e siècles. Voilà, j'ai quelques petites questions pour vous. Tout d'abord, dans vos travaux, donc sur le 17 et 18e, vous montrez comment c'est d'abord progressivement une norme française. Est-ce qu'on peut dire que cette volonté de fixer la langue correspond plutôt à un projet politique autant que linguistique? Et en quoi cette construction, elle influence notre manière de parler et d'écrire aujourd'hui?
Alors, il y a une question avec deux sous-questions, entre guillemets.
C'est un peu lié,
très,
oui.
Voilà, très ambitieux comme première question. Effectivement, le 17e, c'est souvent considéré comme le siècle de, où on a standardisé la langue française à partir d'abord de, d'un certain nombre de parlers locaux qui se sont graduellement effacés du paysage linguistique au fil des siècles, hein, comme le normand, le champenois, etc., qui étaient encore beaucoup parlés au 17e siècle. Donc, on a, disons, mis en règle un français standard qui s'est imposé un petit peu partout au fil du temps. Et donc c'est un peu le siècle où on l'a fait, le siècle de la création de l'Académie, le siècle des premières grammaires, des premiers dictionnaires, etc. Et le deuxième aspect que vous avez soulevé, c'est l'aspect politique. Alors effectivement, on a homogénéisé le français aussi parce que le français était un royaume unifié. Par exemple, c'est assez différent en Italie. L'italien était unifié, certes, au niveau linguistique, mais ce n'était pas en lien avec un projet politique qui viendra beaucoup plus tard. L'Italie n'a été unifiée qu'au XIXe siècle, alors que la France était déjà un royaume unifié. Donc, il y a un projet politique derrière aussi.
D'accord. Et justement, donc, vous parliez des normes tout à l'heure. Donc, dans une perspective toujours de sociolinguistique historique, comment est-ce que les usages réels de la langue, ils coexistent avec des normes prescrites? Comment est-ce qu'on peut faire une différence entre la langue vécue et la langue idéalisée?
Oui, alors la sociolinguistique historique, on peut peut-être expliquer un petit peu ce que c'est. Hein. C'est d'essayer d'étudier le réel des usages, parce que les gens n'ont jamais parlé une langue. Moi, je dis souvent, on ne parle pas une langue, on la manipule. Donc, les différentes communautés l'utilisent différemment, font des choses différentes avec cette langue. Et c'est très difficile d'aller investiguer ça dans l'histoire. Aujourd'hui, on peut faire des enquêtes, etc. Mais dans l'histoire, c'est difficile d'aller chercher ce genre de renseignements. Alors, jusqu'à présent, quand on faisait l'histoire de la langue française, on s'abritait beaucoup derrière le standard, les dictionnaires, les grammaires, le français homogène, le français transmis. Mais aller voir ce que parlaient, ce qu'écrivaient vraiment les différentes communautés, c'est beaucoup plus difficile. On ne le fait que depuis une trentaine d'années, avec des outils qui valent ce qu'ils valent, hein, c'est-à-dire des témoignages d'époque, parce qu'on n'a pas d'enregistrement, bien sûr. Donc, effectivement, je développe une recherche dans ce sens-là, essayer de voir le réel. Et pas seulement ce qui a été décrit.
Donc on parle de réel, j'aimerais aussi parler d'imaginaire, de la langue. Oui. C'est un sujet auquel vous vous intéressez.
Oui.
Comment est-ce que les représentations justement du français à l'époque classique, donc c'est-à-dire la langue de clarté, de raison, voire de supériorité, comment est-ce qu'elles ont façonné notre rapport à la langue aujourd'hui ?
Alors moi j'ai essayé de déconstruire, j'avais fait ma thèse sur ce sujet, un petit peu d'une déconstruction de l'imaginaire du français classique. Notamment des idées de clarté, de naturel, etc., pour essayer de montrer qu'elles ont été fabriquées, ces notions, pendant la période classique. Et alors, est-ce qu'elles ont eu un impact sur notre manière de nous représenter la langue aujourd'hui ? En France, oui, je dirais, parce que je ne suis pas le seul à le dire, mais le contexte français, et je ne parle pas de la francophonie, je parle du contexte français, est un contexte où on accorde beaucoup d'importance aux normes de langage, et une importance, à mon avis, excessive. On est souvent, en tant que linguiste, interrogé par des journalistes qui nous demandent « Mais est-ce qu'il faut dire comme ça, le, la, est-ce qu'il faut employer telle conjugaison, etc. ?» Et souvent, on a envie de leur dire « Mais écoutez, il y a plus de marge de manœuvre dans le français que vous imaginez. » Donc, il n'y a pas une norme. Et c'est un peu contre cette idée que je travaille, personnellement.
Et alors, justement, est-ce que les formes contemporaines d'écriture, donc notamment... dans, je pense au numérique, oui. Transforme notre manière de construire donc, le sens et s'inscrive dans une continuité historique avec cette importance de la norme.
Oui, ben, je prépare justement un livre là-dessus qui doit paraître en septembre prochain. Ce sera un collectif qui sera dirigé, qui s'appellera S'écrire aujourd'hui et qui va essayer d'étudier les transformations que les nouveaux outils technologiques ont apportées à la pratique de la correspondance. Et notamment, bon, courriel, SMS et réseaux sociaux. Alors, on est en train d'étudier justement les modifications de l'écrit. Parce que c'est quand même toujours de l'écrit. C'est pas de l'oral, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Même si beaucoup de gens aujourd'hui dictent leur message. Donc, il y a quand même, on modèle son message oral en vue d'un écrit futur. Alors, la question, c'est est-ce que ça modifie notre manière de penser ou notre manière de concevoir le message ?
Oui, de communiquer.
Probablement, on voit bien que quand même nos unités d'écrit sont beaucoup moins longues qu'avant l'invention de des différentes technologies. Donc, on tronçonne beaucoup plus. Donc, il y a un aspect beaucoup plus dialogué. Hein. Bon, alors, voilà, ce genre de choses qu'on étudie.
Dans ce cas, est-ce qu'on peut même comparer, ne serait-ce que la communication à distance ? Aujourd'hui, ça va être les SMS ou les mails, oui. Mais surtout les SMS, tandis qu'avant, c'était plutôt les lettres.
Oui.
Comment est-ce que ça a changé aussi
Alors, il y a un rapport au temps, par exemple, qui change, puisqu'évidemment, ce qu'on appelle des messageries synchrones ou asynchrones. Alors, asynchrone, c'est plutôt les messageries mail, par exemple, où moi, personnellement, dans ce collectif, je vais étudier les normes. Comment les nouvelles normes se créent. Quel temps est acceptable, par exemple, pour répondre à un mail? Quel temps est acceptable pour répondre à un texto, pour intervenir sur un réseau social, etc. Il y a des normes implicites qui se sont créées, qui se sont mises en place, qui diffèrent selon les différentes technologies.
D'accord. Et justement, je voulais parler aussi de la notion de sentiment linguistique qui est au cœur de vos recherches. Est-ce que...
Oui.
Vous pouvez nous expliquer un peu en quelques mots de quoi il s'agit ?
Alors, le sentiment linguistique intervient lorsqu'il y a un conflit d'interprétation, par exemple, je prends l'exemple d'une néologie, d'un mot dont on n'a pas l'habitude. Je prends l'exemple de sériosité. Si je vous dis le substantif sériosité, la sériosité, le fait d'être sérieux, est-ce que vous considérez que c'est un néologisme ?
Oui.
J'inverse les rôles. Là, je vous pose des questions.
Oui, je considérais ça comme.
Vous considérez que c'est un néologisme. Eh bien, c'est attesté au XVIIe siècle. Et ça a été commenté au XVIIe siècle. Et on a regardé au XVIIe siècle si les locuteurs de l'époque préféraient de dire sériosité sur le modèle de curiosité, être curieux, curiosité, être sérieux, sériosité. Alors, voilà le sentiment linguistique, c'est ça. Est-ce qu'on aime sériosité ou est-ce qu'on préfère de substantiver l'adjectif sérieux, le sérieux ? Voilà, c'est ce qui s'est imposé en français au fil du temps. Donc, ça, c'est ça, ces débats-là, le sentiment linguistique.
Et est-ce que, justement, on peut faire ce lien-là avec les précieuses, à l'époque, qui inventaient des mots avec... Ou est-ce que ça a vraiment...
Tout à fait, les précieuses ont manipulé la langue. Tout à l'heure, on disait, on ne parle pas la langue, on la manipule. Typiquement, c'est un cas de manipulation. Mmh. Et là aussi, ça a créé beaucoup de sentiments linguistiques. Certains ont trouvé que c'était de l'affectation. Molière, à mon avis, un peu à tort, a caricaturé ce mouvement et s'en est moqué. Et on peut l'étudier d'un point de vue juste du sentiment linguistique, c'est-à-dire quelles sont les attitudes et les raisonnements qu'on mobilise face à des mots nouveaux, à des façons nouvelles de s'exprimer.
Alors tout à l'heure, vous parliez donc d'un livre que vous allez bientôt publier, mais est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un livre que vous avez déjà publié, donc Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde, que vous avez écrit, dans laquelle vous mettez en évidence un paradoxe assez fascinant. Paris est à la fois le lieu de naissance et de normalisation du français, et une ville finalement plurilingue. Donc comment cette tension entre diversité linguistique et volonté d'unification s'est-elle construite ? Comment est-ce qu'on pourrait dire
Oui, alors dans ce livre, j'ai essayé de faire le portrait linguistique d'une ville, c'est-à-dire de regarder le réel. Tout à l'heure, on parlait de réel et d'imaginaire. Et quand on est au ras du réel, on s'aperçoit qu'il y a une diversité beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Donc, l'histoire linguistique de Paris, c'est pas seulement l'histoire linguistique du français. Dans ce livre, d'ailleurs, il y a d'assez longs passages sur la Sorbonne, parce que la Sorbonne au Moyen-Âge était un lieu très international, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et ensuite, elle l'est restée. C'était organisé en nations. Donc, il y avait des différentes nations qui étaient logées dans des collèges, un peu sur le modèle anglais, en fait. Hein. Et donc, c'était très plurilingue. Voilà, j'ai essayé de confronter ce plurilinguisme très grand, beaucoup plus grand qu'on pense dans l'histoire, avec le fait aussi que c'est à Paris que s'est créé et a été normalisé le français standard avec l'académie, etc.
Et est-ce qu'on peut considérer donc les écrivains donc, du XVIIe et XVIIIe siècle comme des acteurs de la standardisation du français au même titre que les grammariens ?
Des acteurs à leur corps défendant, peut-être un peu. Je m'élève assez régulièrement contre cette habitude journalistique et autres qu'on trouve aujourd'hui assez fréquemment de qualifier le français comme langue de Molière. Je trouve que c'est absolument ridicule parce que quand on regarde, bon, le français d'aujourd'hui, bien évidemment, n'est pas du tout le français de Molière. Et Molière est un très mauvais exemple de français standard. Quand on étudie le théâtre de Molière précisément, on s'aperçoit qu'il manie beaucoup la langue, il la tord dans tous les sens. Il y a du latin, il y a de l'occitan, il y a du picard, il y a des langues étrangères, il y a toutes sortes de choses. Il y a des langues précieuses, il y a des langues basses, populaires, etc. Donc qu'est-ce que c'est la langue de Molière en fait ? C'est un peu de l'imaginaire. Précisément. On projette sur Molière l'idée qu'on a du français classique et j'essaye de casser un peu ce mythe.
Et justement, est-ce que ça n'a pas toujours été un peu le cas, cette différence de toutes les langues françaises parlées finalement dans une seule et même langue, vous disiez, entre les langues précieuses, les langues... Est-ce que ce n'était pas déjà le cas aussi avant ? Où il y avait beaucoup, il y avait les langues de certaines classes.
Complètement. Ouais. Quand on regarde la littérature française, alors il faut lire les éditions originales. La littérature française du XVIIe est malheureusement souvent modernisée, et la ponctuation modernisée, et même les mots parfois. Bon, il faut lire vraiment les textes originaux, et il faut lire la diversité de la littérature de cette époque. On ne retient de cette époque souvent que ce qui est transmis par l'institution scolaire et ce qui est très normal, entre guillemets. Mais si vous lisez le burlesque du XVIIe siècle, vous ouvrez un monde tout à fait étonnant. Si vous lisez la littérature poissarde du XVIIIe siècle, qui est inconnue évidemment dans l'enseignement scolaire, là, vous ouvrez l'œil sur la réalité linguistique du XVIIIe siècle, qui est beaucoup plus diverse.
Et vous vous intéressez aussi aux évolutions récentes du français contemporain.
Oui.
Dans ce cas, face aux transformations qui sont liées aux réseaux sociaux, aux pratiques numériques ou même à l'influence d'autres langues, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une véritable mutation ou est-ce que c'est simplement une nouvelle phase de changement linguistique ?
C'est une nouvelle phase de changement linguistique sans aucun doute. Après, je pense que nous vivons une époque de complexité linguistique encore supérieure à ce qu'a vécu le passé, qui était déjà très complexe, hein, beaucoup plus complexe que ce qu'on ne dit. Mais aujourd'hui, il y a une diversité. D'abord, il y a un brassage sans doute plus important, une mondialisation des échanges, etc., qui est plus importante qu'avant, bien sûr. Et il y a un brassage social, il y a une mobilité géographique aussi, il y a une mobilité sociale, enfin, ce qui fait que ça crée un effet de melting pot sans doute encore accentué. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'avait inspiré l'idée de Paris-Babel, où le mot Babel évoque l'idée d'un mélange plurilingue, c'est la situation d'aujourd'hui. Quand on sort dans la rue aujourd'hui à Paris, il y a une chance sur deux pour que la première langue qu'on entende ne soit pas le français. Donc il y a ces dynamiques touristiques, etc., qui jouent énormément. Tout ce brassage linguistique crée une complexité face à laquelle il faut qu'on essaye de trouver sa petite place chacun. Et c'est loin d'être évident.
Très bien, merci beaucoup. Et j'ai une dernière petite question pour vous, notre question phare, fil rouge, auquel vous avez probablement déjà répondu. C'est que représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, la Sorbonne, c'est le lieu où j'ai fait une partie de mes études, pas toutes mes études, mais j'ai passé l'année d'agrégation à la Sorbonne et j'ai fait ma thèse ensuite avec un enseignant qui est maintenant parti à la retraite et malheureusement décédé cette année. Et donc, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de transmission, de fil de transmission qui continue dans ma vie. Et c'est un lieu où j'enseigne maintenant, mais j'ai l'impression que c'est aussi le lieu où je continue d'apprendre. Alors je pense que je continuerai d'apprendre personnellement sans enseigner, mais l'enseignement est souvent vu comme une transmission à sens unique. Et en fait, c'est à double sens. Donc on continue d'apprendre pour soi, stimulé par l'ambiance générale, et on continue d'apprendre aussi par les étudiants, parce qu'on nous renvoie les étudiants. Donc c'est un peu une école de jeunesse, je crois.
C'est beau, c'est touchant comme dernier mot. Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pour cette interview, c'était passionnant. Et pour cette cet échange, qui ça nous rappelle à quel point la langue, c'est à la fois un héritage historique, c'est un objet de débat et de pratique vivante. Donc, on vous invite bien sûr à découvrir donc votre ouvrage, Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville monde, et bientôt s'écrire aujourd'hui. Et surtout aussi votre épisode de podcast disponible sur France Culture, il me semble, que vous en avez publié un. Donc voilà, merci beaucoup et puis à bientôt.
Merci.
Merci à vous Gilles Sophie et à toi Swan pour cette interview passionnante. Ça, tu l'as dit, on a toujours envie d'en savoir plus après 10 minutes.
Effectivement, mais on n'en saura pas moins dans le reportage de Clara tout de suite sur Cours d'honneur.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau et là, c'est le drame.
Défi de l'attente qui s'étire, un long dossier à fournir, des espoirs qui partent en fumée. Trouver un appartement, c'est éreintant. Alors, une fois notre nid douillet installé, et si on fêtait cette arrivée, Clara est allée voir ce que ça donnait côté étudiant. Plongeons avec elle dans cette célébration, j'ai nommé la crémaillère.
Il est 19h47 et je viens de poser mon vélo à l'une des bornes des Louis sur Seine. Bon, par contre, il y avait juste un seul vélo, donc j'ai un peu peur pour le retour, mais maintenant, je dois trouver l'adresse de la crémaillère.
Ah, ça sonne! Oh, qui voilà!
Salut, Tito! Comment tu vas?
Manon, Thibault, Solène et leur chat ont emménagé il y a bientôt 3 mois dans ce 60 mètres carrés. Après avoir franchi la porte, on arrive dans le salon doté d'une grande baie vitrée devant laquelle trône un sofa moelleux et des luminaires assez bas que je me suis pris plusieurs fois dans la soirée.
Mais voilà, je suis assommé!
À droite se trouve la cuisine avec un plan de travail mobile. Attention à ne pas trop appuyer.
Attention, je vais crier très fort.
Le couloir où se tient un vélo de course donne lui sur la salle de bain et les deux chambres, une pour Solène et l'autre pour le couple Thibaut et Manon. À présent bien installés, ils nous accueillent dans leur cocon hors de la frénésie parisienne.
Plein sud, 60 mètres carrés, une vue merveilleuse. On est vraiment très très bien ici par rapport aux 18 mètres carrés parisiens.
Le loyer est quand même plus intéressant. Je suis avec mon copain dans la coloc et l'autre c'est ma sœur, donc c'est hyper important qu'on fasse la crémaillère. C'est la première fois.
Cette soirée permet donc d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie et c'est pourquoi elle se démarque des autres réunions nocturnes festives.
Oh non, pas une soirée comme les autres. Normalement, on a tendance à plutôt prendre un apéro et chacun se sert et on discute. Mais là, on s'est dit, on va faire un truc un peu plus, entre guillemets, raffiné en faisant un repas.
Niveau organisation, ils ont d'abord fait les courses, puis divisé le prix par le nombre d'invités et nous ont fait tourner une cagnotte sur laquelle mettre les sous.
Ça suffit à tout financer.
Pour plaire à tout le monde, ils ont pris du vin, des bières, mais aussi du sans alcool.
Qu'est-ce que tu veux boire ?
Oh, bah, comme tu veux, t'as quoi ?
Il y a bière, vin, soft, enfin voilà quoi.
Bière.
Ok, let's go.
Et côté nourriture aussi, il y en a pour tous les goûts. Du chaud, du froid, du croquant, du moelleux, des légumes, snacks et protéines.
On a demandé aux autres s'il y avait des gens véganes parce que du coup on a fait du chili.
Préparez votre pâte dans une jatte plate.
Donc là je mange du riz avec du chili con carne.
Après, ouais, on a fait ça. Un petit apéro. Petits œufs mimosa préparés avec le cœur. Petites chips à la crevette. Les petites crudités. Et les cacahuètes.
L'ambiance était au rendez-vous. D'abord avec une musique chill, laissant libre cours aux discussions de rencontres et de retrouvailles.
C'est un appareil à vinyle qui fait Bluetooth et en même temps le vinyle quoi. Donc on peut mettre la musique et aussi faire fonctionner le vinyle. Enfin, c'est trop bien.
La fac, en stage ou occupé dans la vie active, les invités de cette soirée m'ont permis de prendre la température de la crémaillère comme une pratique qui se perd ou se perpétue chez les étudiants.
Non, je n'ai pas fait. On n'a pas eu l'occasion, on n'a pas réfléchi.
Non, même pas. On a reçu des copains, mais rien de spécial.
Oui, il y a 2-3 semaines pour que tout le monde vienne voir l'appart. Ça me faisait plaisir d'avoir un peu du monde à la maison.
J'ai déjà fait une crémaillère parce que j'ai emménagé sur Paris en été. 6 dans un 9 mètres carrés.
J'ai fait une crémaillère et j'ai invité mes meilleurs copains à faire des hot dogs.
Normalement, prochainement, puisque je viens d'obtenir un petit appartement sur les Champs de Mars.
On voulait attendre le bon moment pour une question d'organisation, d'argent aussi, certainement. Mais surtout parce qu'on n'avait pas. Enfin, on a meublé l'appartement petit à petit aussi. Donc voilà, pour qu'on soit tous posés, qu'on soit dans notre organisation de taf.
Merci beaucoup Clara pour ce super reportage, j'ai l'impression de revivre ma crémaillère finalement. Mais bon, malheureusement, on doit parler, enfin pas nous, mais des personnes bien moins réalistes qui sont minoritaires dans ce studio. Les mecs par Eva de suite sur Cours d'honneur.
D'écouter les mecs de Eva et Eva Queen pour les anciens. Elle s'est vachement bien débrouillée pour se refaire une nouvelle image loin de la Queen de 2018 et c'est très cool. Mais vous savez qui se débrouille encore mieux ? Thomas dans la chronique débrouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table!
Dès le printemps, les Parisiens et Parisiennes sortent leurs plus beaux atouts pour faire virevolter les cœurs et les espoirs sur chaque bout de trottoir. Quoi de mieux pour admirer la faune élégante de la capitale qu'une belle terrasse ensoleillée ? Thomas nous donne les meilleurs spots du quartier, latin pour bronzer et mater.
Allez, je vais commencer par le moins bon et terminer par le meilleur. Alors, on va commencer par la terrasse de la Petite, qui, contrairement à son nom, est une terrasse particulièrement grande qui se trouve sur la place de la Contrescarpe. Et là, on peut délicatement se prendre une bière et admirer les jeunes éphèbes, les belles préparationnaires qui sortent d'Henri IV, qui est tout à côté. Ensuite, l'autre terrasse qui vous permettra de profiter du soleil. Enfin, aujourd'hui, il n'y en avait pas beaucoup du soleil, mais ces derniers jours, on pouvait le voir notamment sur les marches du Panthéon. Et oui, c'est une terrasse où on peut déguster un hot dog. Je vous recommande celui à 4,50 € de chez American Corner, juste à côté rue Saint-Jacques. Et là, eh bien, vous pouvez vous poser sur ces immenses marches et reluquer les étudiants et étudiantes qui sortent tous de la BSG juste à côté. Enfin, honneur aux pipeaux, où l'équipe de cours d'honneur ces dernières années avait ses habitudes. Les pipeaux qui se trouvent dans la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, eh bien là, moi, c'est mon meilleur plan pour s'installer sur cette terrasse qui est un peu chelou parce qu'elle est un peu inclinée, donc il ne faut pas trop boire, mais elle est au soleil et surtout, on peut mater les intellos qui sortent de Normal Sup et de l'X, qui sont juste à côté. En plus, les pipeaux, ils font des escargots, on adore. J'en viens à la légende de ma génération. Je parle de la terrasse du 2 bis rue des Écoles qui a eu l'honneur de voir nos fessiers s'y poser davantage que les amphis de la Sorbonne. Le 2 bis qui se trouve juste à côté de Jussieu, et là c'est pour mater tous les scientifiques qui viennent de sortir de Paris 6 à l'époque, et on peut picoler là-bas des pintes qui sont, tenez-vous bien, à 3,50 €. La terrasse du 2 bis, donc, et je termine par mon préféré, l'Étincelle. Alors, je triche un peu parce que l'Étincelle, c'est pas dans le 5e, c'est dans le 11e, c'est vrai, mais c'est là où l'on peut suivre, en tout cas, c'est mon meilleur poste d'observation. Les cortèges des manifestations qui sont entre République et Bastille passent toujours à côté de l'Étincelle, et il n'y a rien de mieux pour se laver les yeux que de mater des gauchistes, que de mater des jeunes Guevara en puissance, le tout pour des pintes à 5 balles à l'Étincelle.
Merci beaucoup Thomas pour ce guide en or. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de poser mon cul en terrasse avec des amis et des verres. On pourra rire de tout et surtout du mauvais temps qu'on censure. Et en parlant de censure, Mathilde va vous parler de la chronique pavée.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ?
À la question « on peut rire de tout », la réponse serait oui, mais pas avec tout le monde. Et au XVIe siècle, surtout pas à la Sorbonne. Mathilde nous raconte l'histoire de la censure faite par la grande institution qu'est notre université.
Et oui, notre prestigieuse université était à l'époque un censeur redoutable. Fondée à l'origine pour héberger les étudiants en théologie et leur fournir un lieu d'études, la faculté devient progressivement un tigre de papier. L'histoire de cette censure démarre véritablement à la Renaissance, après l'invention de l'imprimerie. D'un coup, les livres circulent vite et partout, et surtout une traduction de la Bible en langue moderne est publiée. Avant ça, elle était en latin, langue réservée à une toute petite élite ecclésiastique. Cette publication fait donc fureur, et les lecteurs de cette traduction sont affligés de constater que l'Église se joue complètement d'eux.
Sandro, t'es bête ou quoi? Bon, écoute, Sandro, faut que je te dise quelque chose. Je t'ai complètement berné aujourd'hui.
Et oui, les fidèles découvrent des écarts importants entre ce qui est écrit et ce qu'on leur a toujours dit. L'Église rafistole un peu, la parole sacrée à sa guise, ce qui ne plaît pas du tout aux croyants. À partir de là, on voit émerger des écrits dirigés contre l'Église et la messe, sauf que s'attaquer à l'Église, eh ben, c'est s'attaquer au roi. François Ier décide alors de mettre en place un système de censure dont il charge les commandes à la Sorbonne. La faculté donne dès lors son avis théologique sur un texte qui lui est présenté, et là, elle donne soit son feu vert, soit des coups de bâton. La Sorbonne devient une véritable autorité intellectuelle, un garde-fou de la foi chrétienne. Elle condamne des idées, notamment celles des réformateurs protestants tels que Luther ou Erasme, et elle crée même des listes de livres interdits. Et parmi ces livres défendus se trouve Gargantua de François Rabelais. En 1534, il publie l'histoire de ce géant qui déguise une critique acerbe de l'éducation et des institutions de son temps, dont la Sorbonne. Il met ça en scène à travers l'éducation initiale que Gargantua reçoit, qui est l'éducation prônée par la faculté, et le procès est sans appel, hein, puisqu'il passe des années à apprendre l'alphabet à l'envers, c'est complètement inutile.
Ça me sert à rien, sauf si je dois compter jusqu'à 5. Et là, en revanche, ça pourrait me servir.
Résultat, il devient plus sot qu'avant, il invente même un torche-cul, dans le sens littéral du terme, et en vient à la conclusion que la meilleure façon de s'essuyer, c'est avec un oison. Et donc pour la petite anecdote, l'oison c'est l'animal par lequel Rabelais désignait la Sorbonne. Bref, ce qu'il insinue clairement, c'est qu'on ne saurait faire d'autre usage de l'opinion de la Sorbonne que de se torcher avec.
Alors ça c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Alors l'humour quelque peu scatophile de Rabelais, c'est rigolo, mais pas pour la Sorbonne, qui réplique nettement en censurant son œuvre. Rabelais, c'est poubelle. Bon, dit comme ça, on pourrait croire que la Sorbonne possède autant de pouvoir que le roi, mais en vrai, pas tant que ça. Hein. Par exemple, en 1533, la Sorbonne condamne un poème anonyme en lien avec l'évangélisme, qui était une démarche devenue interdite, sauf que ce texte intitulé « Le miroir de l'âme pécheresse » était en fait l'œuvre de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, la Tuile. Le roi ordonne immédiatement l'annulation de la censure, donc on voit bien ici que certes, la Sorbonne propose la censure, mais c'est bel et bien le roi qui dispose du pouvoir.
C'est qui le patron ?
Et moi.
En gros, si on doit désigner un coupable, bah c'est pas vraiment la Sorbonne. C'est une observation qui est d'ailleurs confirmée les siècles suivants, puisque le pouvoir royal renforce son contrôle et va choisir ses censeurs, tandis qu'avant c'était la Sorbonne. Donc l'université perd en autonomie et ne fait plus peur à personne, donc lorsque l'Émile de Jean-Jacques Rousseau est brûlé sur la place publique en 1762, la Sorbonne y est en vérité pour rien, c'est le Parlement qui en a décidé ainsi. Finalement, la Sorbonne est-elle cette maîtresse tyrannique qui règne sur la production intellectuelle ? Pas tant. C'est une autorité intellectuelle, certes, qui surveille, oriente, influence, mais elle n'a pas la main mise sur les publications, elle est finalement plus critique qu'autre chose, c'est un peu la snob qui explique ce qu'il convient de croire pour penser comme il faut, mais ce n'est pas le bras armé de la censure.
Merci Mathilde pour cette chronique. Après, faut que je te l'avoue, bien que j'adore notre chère Sorbonne et son histoire, mon amour pour elle n'est rien comparé à celui que partagent nos deux lovers dans la chronique Sorbonne in Love.
Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Everybody's gonna love today,
gonna love today, gonna love today. La maison s'éveille, c'est un nouveau jour.
C'est un nouveau monde. Moi j'ai besoin de poésie dans ma vie, et d'aventure, et d'amour. Love, love me,
love, love. Il était une fois... Non, je rigole. Ici, on parle pas d'amour gnangnang, mais du love, du vrai. Apparemment, il existe. C'est pourquoi ce soir, nos petits tourtereaux vont nous montrer que le travail paye pour vraiment tout.
Et oui, Swan, ce Sorbonne in Love, je le dédie à toutes les rêveuses, les amoureuses de l'amour, comme on dit, dont je fais partie, mais dont aussi Lise et Lou, nos deux tourtereaux, font partie surtout. Car vous allez voir, mais l'histoire de ce couple prouve bien qu'une relation, ça se travaille. Et notre chère Lou a tellement bossé dur que sa performance est comparable à celle... d'une performance athlétique, tout simplement.
Moi, je m'appelle Lise, j'ai 20 ans, et du coup, je suis à la Sorbonne en L1 de lettres, donc de l'ESM.
Moi, c'est Lou, j'ai 19 ans, et je suis employée en restauration, je suis commis de cuisine. On vient de la même ville natale, donc qui s'appelle Pau, c'est dans le sud-ouest. On s'est jamais vraiment croisés sur Pau, par contre... De près ou de loin, on avait des connaissances en commun et au fur et à mesure, on a fini par se rapprocher parce que j'ai envoyé un message via les réseaux sociaux.
J'ai liké sa story sur Insta et du coup, après, par la suite, il m'a DM, voilà. Pendant un an, il avait DM mon autre meilleure copine, mais genre, c'était vraiment pas forcément... Ils étaient pas très proches et tout, donc c'était pas très très grave, mais il était quand même sur moi, donc il a charbonné pendant 3 ans. Après, il a été en couple et après, c'est à ce moment-là où moi, j'ai enfin décidé de lui donner l'heure parce que pendant 3 ans, il a quand même essayé plusieurs fois de me DM et ça n'a pas du tout marché. Notre premier date, ça s'est passé à Bordeaux, du coup, parce qu'on a fait au milieu, genre entre moi, Paris, et lui, Pau. Et ça faisait deux mois qu'on parlait. On est allé au musée, à l'Atelier des Lumières, et du coup, pour aller voir l'expo de Van Gogh. Et du coup, on a fait ça toute la journée.
Moi j'ai pas poursuivi mes études, donc ce qui fait que j'ai jamais eu de contraintes scolaires ou quoi que ce soit. Et alors quand j'ai rencontré Lise, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai décidé de partir petit à petit la rejoindre. Je me suis arrêté chez mon oncle qui est à Orléans et du coup, je me suis installé pendant 6 mois là-bas. J'ai travaillé un peu avant de partir après sur Paris. Oui, par contre sur Orléans je venais absolument tous les week-ends, j'avais même la carte de fidélité SNCF et tout. Et jusqu'à rejoindre Lise et puis après on a emménagé ensemble du coup sur Paris.
Moi ce que j'aime chez lui c'est son ouverture d'esprit, vraiment son ouverture d'esprit parce que je peux tout faire et tout sera accepté et ça c'est vraiment parfait, non mais arrêtez. Et après sinon, c'est sa douceur parce que c'est assez rare chez un homme, genre vraiment d'être très doux et de tout comprendre.
Et moi je dirais que c'est sa compassion et sa compréhension, elle est plus patiente que moi sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc, elle permet de tempérer, de réguler aussi. Quand on est parti en Thaïlande et que le but, c'est de faire un trip backpack, 3 semaines un peu, n'importe où, etc. Et qu'une fois arrivé sur les lieux, Lise a eu tellement peur qu'on a dû changer tous nos plans en termes d'hôtels. Ah, et oui. Du coup, on a pris que des hôtels dits de luxe, puisque c'était pas cher là-bas. Donc, ça faisait tout de suite moins backpack.
Et, voilà. Et c'est vraiment genre notre meilleur souvenir, ouais. Je pense, à deux. Genre, puisqu'on est parti 3 semaines et c'était, je pense, ça nous a vraiment genre rapprochés vraiment de malades. Genre, vraiment, oui. Beaucoup.
Ils sont trop mignons, tellement mignons que ça a baissé le moral. Donc, pour la dernière musique de la soirée, je voulais qu'on se laisse sur des good vibes. On s'est tous transformés en plantes depuis le retour du beau temps. Un peu de lumière dans les yeux et on ouvre nos pétales. Comme je me sens un peu poète, on écoute un son qui rappelle l'été, les vacances et le soleil. Ça tombe bien. C'est The Empire of the Sun, feat Mac Miller, The Spins. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies. Couple whips and lots of fancy things. The kids they call the Goonies. I see the future, crystal ball. Mirror, mirror hanging on the wall. Who the flies, white boy of the mall? Got your girlfriend screening all the calls. She bubbling, we fucking and you cuddling. Like baby, where the fuck you been? I wanna tell you she in love with him. So we ain't saying nothing. You could probably tell she bluffing, cause she kissed you with the mouth. She gave me head with my concussion. Yeah, she blushing all red. Wanna rush and go to bed. You interrogate that bitch like you the feds. So she says she in love with a rock star. Wanna smoke my weed. So she asked me where the tops are.
Oh,
top drawer.
Oh,
yeah.
Il est 18h53 sur Radio Campus Paris et 20h53 sur Radio Sorbonne Université. Vous venez d'écouter The Spins de Empire of the Sun et Mac Miller, qui nous manque tous les jours, mais pas d'inquiétude, on reste dans le thème de la musique avec le Sorbonne en personne de Romain.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
Effectivement, Elian, et on n'arrêtera jamais d'en parler. Je me demande même si on ne devrait pas tourner une émission spéciale musique. Toi, moi et notre confrère Romain. Bon, que d'ambition. En attendant, on le laisse nous parler du rappeur Youssoupha et de son parcours entre la Sorbonne et les sons.
Aujourd'hui, on parle d'un étudiant qui a plutôt bien réussi sa reconversion professionnelle. Disons qu'il est passé de la dissertation à la punchline, j'ai nommé Youssoupha.
Toucher le plafond, rêveur et indépendant. Être patient, c'est pas attendre. Pour moi, c'est agir en attendant. Alors pendant que ce pays me prend pour un intrus, je prends mon temps, en dilettante, laisse tourner l'instru.
Non, je la laisse pas tourner, désolé. Né à Kinshasa en 1979, Youssoupha arrive en France à l'âge de 10 ans. Il grandit en région parisienne dans un contexte pas forcément simple. Entre précarité et adaptation, il galère. Mais très vite, il se démarque par un truc. Il est bon à l'école, mais genre vraiment bon. 18 à l'oral de français, donc pendant que moi je galère encore sur les commentaires composés, lui, en première, il les maîtrise sur le bout des doigts.
L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais.
Il poursuit ensuite ses études à la Sorbonne Nouvelle en médiation culturelle et communication. Alors dit comme ça, ça fait très sérieux, mais en vrai, ça veut surtout dire qu'il apprend à manier les mots et les discours de manière très alambiquée, ce qui va devenir sa marque de fabrique.
Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent.
Parce que Youssoupha, c'est un rappeur, mais c'est aussi un écrivain, un lyriciste, comme on dit. Ses textes parlent d'identité, de racisme, de politique, bref, des sujets qu'on retrouve en cours à la Sorbonne. Sauf que lui, il les transforme en musique sans créditer l'université, hashtag voler n'est pas bon. En 2007, il sort son premier album, À chaque frère, puis enchaîne avec Sur les chemins du retour, Noir désir, et progressivement, il s'impose comme un des chefs de file du rap français, avec une particularité, il refuse la facilité. Pas de glorification gratuite, juste une écriture exigeante, parfois dérangeante.
Ration d'Espo, la France un pays d'escrocs. Ils ont volé nos œuvres d'art, les ont mis dans leurs expos.
Alors forcément, ça crée des tensions, des polémiques, des critiques, mais il assume parce que chez lui, écrire, c'est aussi prendre position. En 2015, son album NGRTD est certifié disque d'or. Plus récemment, son morceau « Écrit mon nom en bleu » est choisi pour être l'hymne de l'équipe de France pour l'Euro 2021, un choix qui fait débat mais qui montre surtout à quel point sa voix compte dans l'espace public. De la Sorbonne aux grandes scènes, Youssoupha incarne un parcours parlant pour nous, étudiants, celui de quelqu'un qui part des mots et qui finit par en faire quelque chose et accessoirement qui prouve qu'on peut survivre à la Sorbonne et même en faire quelque chose de stylé.
Merci beaucoup Romain pour ce Sorbonne en personne. Et en parlant d'étudiants qui rappent, on parle d'étudiants qui écrivent, on parle d'étudiants qui révisent. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne salle de classe, la BIS, qu'on va visiter avec Lavinia dans la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Les examens sont toujours plus proches que vous ne le pensez. Voilà un mantra qui fait mal, mais qu'il faut méditer. Surtout au deuxième semestre, et pour vous préparer, chers auditeurs, on vous a confronté à cette réalité. Lavinia vous plonge dans l'ambiance des cours, et surtout dans l'incontournable ambiance des salles Jankélévitch et Aristote.
Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Paris 1 et je prépare l'agrégation de philosophie cette année. Et j'ai accepté, pour ne pas avoir à travailler pendant un petit moment l'agrégation, de faire un petit tour de la salle Jankélévitch et de la salle Aristote, qui sont les salles de philosophie à la BIS. Bah, du coup, là, on rentre dans la salle Jankélévitch, qui est, pour être honnête, une salle où je vais pas des masses. Et par pas des masses, je veux dire où je vais pas. Mais il y a des ordinateurs. J'imagine que c'est très utile. Après, moi, je viens avec mon ordinateur, personnellement. Bon, il y a de la psychanalyse. Je vais pas commenter plus que ça, parce que c'est pas mon truc, disons. Mais ça me paraît être plutôt philo-contemporaine, donc c'est chouette. On aime bien. Il y a de la théorie critique, je vois ça. Et beaucoup de revues. J'ai l'impression que c'est plus des revues dans cette salle que des bouquins d'auteurs directement. En fait, peut-être que j'aurais dû venir ici depuis le début et que les ressources dont j'avais besoin étaient là. Et que en bac plus 6, c'est un peu tard pour s'en rendre compte. Mais c'est ok. Ah, ensuite, oui, il y a toujours quelqu'un dans la salle. En général, qui est très gentil, qui aide à, comment dire, quand on est là et qu'on sait pas comment utiliser le wifi, par exemple, on peut demander, parce que Eduroam, c'est dur. Donc on peut nous aider un petit peu là-dessus. Du coup, je quitte déjà la salle Jankélévitch. Déjà parce qu'on va nous demander de partir. Donc là, nous allons aller en salle Aristote, qui est plutôt la salle où je vais bah, tous les jours, en réalité. Quasiment tous les jours, 9h-20h, je suis à peu près toujours là. On n'a pas le droit de laisser nos affaires, mais quand tu fais 9h-20h, peut-être qu'une petite pause sans laisser sa place, c'est pas si grave. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place, donc c'est un petit peu la bagarre.
Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est...
La bagarre.
L'ordre...
Il y a beaucoup des doctorants et des profs qui viennent ici, ou beaucoup de gens qui passent la grecque. J'ai l'impression que les gens, avant, soit ils connaissent pas la salle, soit ils osent pas, parce qu'on est quand même sur une ambiance tamisée. Qui peut être un petit peu pesante. J'essaie de finir travailler avec des gens ici et c'est pas une ambiance pour tout le monde. Moi j'aime beaucoup, mais ouais, ça plaît pas à tous. On est entouré par les bouquins, vraiment tous les murs. C'est des bibliothèques avec des livres bleus. Et il y a une fresque en haut. Le plafond est très haut comme d'habitude. La fresque est plutôt ok. Il y en a des plus belles par ailleurs. Et des grandes fenêtres mais qui donnent sur cours, donc on n'a pas souvent beaucoup de lumière. Donc en philosophie on est bien, mais pas dans la lumière non plus. Après la grecque je ne reviens plus ici. Non je rigole, peut-être. Peut-être que je reviendrai, personne ne sait. Les meilleures places, c'est celle à côté des fenêtres. Ce que j'aime beaucoup dans cette salle, c'est que tout le monde a une prise. Et ok, bon ça c'est très précis, mais le rapport chaise-table est tellement meilleur que dans la grande salle. Voilà, bah ici tu peux prendre de la place. C'est une salle qui a été faite pour étudier, en fait, qui a pas été faite pour être jolie. On n'est pas déconcentré par l'histoire et la beauté de la pièce. Et on peut juste bosser en fait. Ça fait plus CDI, je sais pas, ici, bon, c'est sombre, mais c'est bien. On y travaille bien en tout cas.
Quelle excellente carte postale. Merci beaucoup, ça m'a donné envie de retourner réviser finalement. Voilà. Allez, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté.
Merci infiniment à notre invité Gilles Sioffi, interviewé par Swan. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Et on remercie aussi toute l'équipe, dont notamment Elias.
Eh bien, merci à vous et des gros bisous. On se retrouve samedi à Banyuls.
Ya ya ya. On remercie aussi Clara.
Ouais, moi je veux une carte postale de Banyuls, s'il vous plaît.
Et justement. Ah, pas le choix.
Merci aussi. Merci à Mathilde.
Eh ben, je vous en prie, on se retrouve très très vite.
On dit aussi bonsoir, enfin au revoir à Romain.
Et merci à vous et bonne soirée finalement.
Oui, merci, toi aussi. Au revoir à Lavinia.
Au revoir, mais pour de vrai, parce que vous allez partir à Banyuls. Hein. Alors vrai. Moi je veux une vraie carte postale, une envoyée par la poste, d'accord?
Promise. On l'enverra en MP3. Bonsoir aussi à Thomas, le remplaçant de Jade, qui a bien assuré ce soir.
Ouais, c'est trop cool les opportunités, je peux enfin faire mes preuves dans ce stage.
Là, on va te noter peut-être. Un bisou à nos amis de Radio Campus Paris qui nous soutiennent depuis toutes ces années.
On s'écoute dans 2 semaines.
Et nous, hashtag je déconne, dès samedi en direct et en public depuis Banyuls.
Donc on se retrouve donc samedi 28 mars sur radiosorbonneuniversité.com.
Sur ce, on ne peut que vous souhaiter de bronzer,
planer, de profiter du beau temps.
Pendant qu'on se baignera dans le sud, soyez pas jaloux.
Essayez de quand même parler de nous.
Et n'oubliez pas,
soyez vous-même.
Soyez fous-même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime. Bisous, ciao.
Retourner à l'université.
J'ai pas réussi à vendre tous les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.